Bien. Bon, je vous remercie de me permettre d'intervenir aujourd'hui. Déjà parce que ça m'a permis de venir sur Paris, ce que je fais plus trop souvent. Et puis également parce que depuis les travaux que j'ai menés sur le crédit, un peu par accro, puisque je travaillais plutôt au départ en histoire religieuse, bon, je me suis tourné vers d'autres sujets. C'était l'occasion pour moi finalement de me poser des questions que je ne m'étais jamais posées avant. Et la principale, c'est comment quelqu'un comme moi qui a été formé en histoire religieuse pure, l'histoire de la piété, des dévotions, je travaille sur le Sacré-Cœur, etc. Pourquoi je n'ai été mieux m'intéresser aux questions économiques. Et d'ailleurs, maintenant, l'essentiel de mes travaux se situe à la jonction des deux, de l'histoire religieuse et de l'histoire économique et sociale, en travaillant sur la pureté des jeunes filles, sur les Amish, etc. J'aime bien travailler sur des petits groupes niveau. Donc, vous pouvez donc me pardonner cette démarche qui est un peu une démarche d'égo-histoire, mais je crois qu'elle va servir le propos. Alors, je veux dire, pour être honnête, que les spécialistes de la contre-réforme ne partagent pas tous mes vues. La soutenance de thèse l'a montré. Et que les discussions tombent parfois au dialogue de sourds parce qu'on ne parle pas de la même chose. Même si c'est du même sujet, les associations religieuses catholiques, on a un regard tout à fait différent. Déjà parce que les sources ne sont pas les mêmes, parce qu'on travaille sur des registres, qu'on travaille sur des statuts, sur les documents déposés à Rome, ou sur les sources économiques et sur l'intendance des confréries, on n'a pas du tout la même vision des choses. Je pense que c'est aussi un des intérêts. Il y a quelques années, Michel Vauvel, dans un livre qui s'intitulait « De la cave au grenier », se posait la même question, et il décrivait le mouvement qui avait été celui des historiens.
Le genre de gag stupide.
Donc, pour illustrer le parcours des historiens de sa génération, les Duby, le Roi Ladurie, de Lumeau, qui sont passés de l'histoire économique et sociale à l'histoire des mentalités. Alors, j'ai l'impression que l'on prend aujourd'hui le chemin inverse, et que l'histoire des représentations cède un peu le pas devant le retour de l'histoire économique, et pour mon compte, de l'histoire rurale. Mieux, on cherche à relier les deux niveaux, et j'en veux pour preuve le beau colloque qui est paru il y a peu de temps, « Le ciel et la terre » aux presses universitaires de Rennes, dirigé par Georges Provost, organisé à Rennes il y a 4 ans, et qui se proposait justement de faire dialoguer les spécialistes des deux domaines, spécialistes de l'économie et spécialistes de la religion. Alors j'ai pour mon compte été formé en histoire religieuse, et lorsque j'ai commencé à travailler sur les confréries, c'est-à-dire les associations religieuses et l'Église catholique, qui existent depuis le Moyen-Âge, mais qui se répandent surtout à partir du Concile de Trente, par milliers dans la chrétienté. Et il s'agissait essentiellement d'écrire comment ces groupes avaient pris en main les fidèles pour imposer le projet tridentin, donc pour imposer la réforme catholique. Le reste, les registres de comptes notamment, c'était de l'intendance, et cela n'avait rien à voir avec la piété, croyait-on. D'ailleurs, lorsque les missionnaires, les visiteurs, les envoyés de l'évêque arrivaient dans les paroisses, chose que l'on peut lire dans les visites pastorales, ils poussaient des hauts cris sur le mélange des genres entre les choses matérielles, l'argent et la religion. La démonstration restait assez sommaire, les missionnaires fondent des confréries, les fidèles, tout naturellement, sont emportés par l'élan et par miracle, pris par l'ambiance, ils changent de comportement. Or, je me suis trouvé devant deux problèmes. D'abord, la plus grosse partie des archives des confréries, mais comme pour les monastères d'ailleurs, est formée de documents économiques, et notamment des milliers et des milliers de constitutions de rente. Ensuite, j'ai commencé à avoir du mal à croire que la contre-réforme avait été un phénomène frontal, Rome ordonnant par décret, des évêques plus consciencieux visitant leur diocèse, des missionnaires comme les jésuites passant dans les paroisses, des curés bien formés au séminaire les ordonnant, et les fidèles naturellement acceptant de changer de comportement. Alors, sauf pour des croyants d'élite, j'en veux pour preuve les membres des congrégations mariales des jésuites étudiés par Louis Chatelier, je ne suis pas sûr que l'adhésion aux confréries a été uniquement guidée par la piété. Mais je ne brûle pas ce que j'ai adoré. À la lecture de certains sociologues américains qui ont changé notre vision du fait religieux, mais aussi de la psychologie des groupes, je me suis demandé quel était le pouvoir caché des confréries et qu'est-ce qui expliquait leur influence. Et je déflore un peu la conclusion de tout à l'heure. Mais tous les liens que les confréries pouvaient entretenir avec la société, notamment les liens avec l'économie, à mon sens, expliquaient leur influence religieuse. J'y reviendrai. Or, l'histoire du crédit proposée par les confréries religieuses est inséparable de l'histoire de leur patrimoine, de la manière dont ce patrimoine était appréhendé par les habitants, et de diverses réalités sociologiques ou religieuses. Bon, juste pour... je remets une petite carte que j'ai mis dans le dossier d'accompagnement pour situer la région que j'ai étudiée, c'est-à-dire... On ou à gauche le département de la Meuse. Oui, c'est un peu bizarre pour quelqu'un qui a travaillé sur l'Ancien Régime et en histoire religieuse. J'ai pris pour base un département et non pas un diocèse ou un duché. Bon, la raison, c'est que, on le voit bien ici, ce territoire a été formé en agrégeant des territoires venus au temporel et au spirituel d'espaces différents. Ça pourrait être intéressant de comparer les choses. On le voit bien ici, avec le découpage politique, on est à cheval sur la France et la Lorraine, le Barrois, des territoires qui appartenaient auparavant aux Pays-Bas espagnols, des enclaves comme Vaucouleurs, Commercy, etc. Donc ça pourrait être intéressant de comparer des territoires qui n'ont pas eu la même histoire politique, qui n'ont pas eu la même histoire religieuse. Alors, comme vous avez pu le voir dans le dossier d'accompagnement, j'ai travaillé donc sur l'ouest de la Lorraine, une région encore aujourd'hui très rurale, j'en ai pour preuve la gare TGV où j'ai pris le train, qui est perdue en race campagne, au milieu de la neige. Et j'ai eu la chance de découvrir 2500 associations, alors qu'il y a une vingtaine d'années, on pensait que les confréries étaient plutôt du domaine du monde méditerranéen, de la sociabilité qu'on pouvait trouver dans l'espace méditerranéen, éventuellement en Normandie. On a été très surpris à l'époque de découvrir, depuis la vallée rhénane jusqu'à la Lorraine, et là il y a une coupure quand même, parce qu'on passe en Champagne, quand on est dans le bassin parisien, de grosses densités d'associations. Donc plus d'un millier pour l'Ancien Régime. Ceci pour à peu près 500 localités, donc on peut estimer qu'en moyenne, chaque village a eu deux ou trois associations avant la Révolution. La taille des localités est de 150 habitants. Qui montre la réalité. Donc je pose d'abord une première question. Le patrimoine des confréries, les terres, les prêts, l'argent qu'elles possèdent, est-ce un capital commun aux adhérents? Est-ce un capital communautaire, c'est-à-dire qui appartiendrait aux habitants? Je ne parle pas en droit, mais dans les faits, dans les réalités pratiques, ou qui appartiendrait à l'Église, qui appartiendrait à Dieu. Or, la confrérie, c'est d'abord un agent économique comme les autres. Elle possède et affirme des terres, notamment des prêts. Je donne un exemple d'une confrérie installée à Saint-Mihiel, une petite localité de 6000 habitants, qui était la capitale judiciaire du Barrois non mouvant. Donc, on voit les différents villages, les pièces de prêts, les jardins, les étangs, etc., qu'elle pouvait posséder. Vigneul, c'est là où vous avez actuellement le lac de Madine. Donc la confrérie est un agent économique, elle possède la ferme des terres, des prés, met aux enchères ses récoltes, prête de l'argent, elle détient des maisons. À Gondrecourt, la petite ville à côté de laquelle est né Fernand Braudel, une grosse confrérie possédait peut-être 20% des maisons de la ville, une ville de 1500 feux à peu près. Beaucoup d'habitants, parfois un par famille, se trouvaient impliqués dans son fonctionnement. Vous avez des villages où, c'est la coutume, une personne par famille, souvent une femme, adhère à l'association et en échange l'association rend des services à la famille. Donc la population entière, notamment lorsqu'il n'y avait qu'une association dans un petit village, la population entière était impliquée dans le fonctionnement de l'association. Donc elle pouvait estimer que cette association, c'était la sienne. Donc et puis, deuxième document que j'ai rajouté, dans les archives des confréries, on trouve souvent des plans avec les différentes parcelles qui étaient possédées par telle ou telle organisation. Alors, à qui appartient ce patrimoine? Sous l'Ancien Régime, bien entendu, la notion public-privé est très floue. Et sinon, en droit, dans les faits, le patrimoine des confréries a été considéré comme un bien commun aux habitants du village, même lorsqu'à l'origine, il s'agit de legs faits par des particuliers. La frontière est en effet très souple entre ce qu'on appelle la communauté d'habitants, c'est une organisation politique, la paroisse, une organisation religieuse, qui s'incarne sur le plan de la fabrique, c'est-à-dire l'organisme financier qui gère les terres et l'argent de la paroisse, et la confrérie, qui sont souvent une seule et même réalité, que l'on nomme différemment, une confrérie, communauté, paroisse, et on voit que dans les faits, meilleure pratique, par les gens, c'est vécu comme étant une seule et même réalité. On considère donc que le patrimoine qui a été accumulé pendant des siècles appartient à la collectivité et qu'il doit lui profiter. De là proviennent les violentes oppositions populaire lorsque les autorités, l'intendant, l'évêque, plus tard le pouvoir révolutionnaire, ont voulu confisquer ce patrimoine ou l'attribuer à d'autres choses. En cas de difficulté, lorsqu'il s'agit de payer une amende, pendant la guerre de 30 ans par exemple, un impôt imprévu, la réfection de la nef de l'église qui incombe aux habitants, pour construire divers équipements dans le village, c'est souvent le conseil communautaire qui est assez démocratique en Lorraine, puisque c'est l'assemblée des chefs de famille du village, prend souvent la décision de tirer l'argent nécessaire sur les comptes de la confrérie. Plus tard, on se contentera de lui emprunter l'argent nécessaire. L'association finance aussi couramment des services publics. Et en 1789, la Lorraine était une des régions de France où le taux d'alphabétisation était le plus élevé. Or, j'ai trouvé, dans le diocèse de Toul essentiellement, que beaucoup de petites écoles de ces villages avaient été financées par la confrérie du village, souvent la confrérie de la Vierge d'ailleurs. Bon, j'en ai donné quelques exemples, depuis j'en ai trouvé d'autres. Toutes celles où l'école a été créée par la confrérie. Dans d'autres cas, on a les écoles qui sont juste financées. Alors, la confrérie, c'est donc un capital accumulé et c'est de l'argent disponible. Surtout, la confrérie possède un gros avantage. C'est un des rares organismes à détenir de l'argent frais. En Lorraine, les communautés d'habitants sont pauvres et de plus en plus contrôlées par les autorités qui les empêchent de s'endetter. Les intendants au XVIIIe siècle les empêchent de s'endetter. Donc, les fabriques, c'est-à-dire l'organisme qui gère les terres et les finances des paroisses, sont tout aussi pauvres et elles ont encore été ruinées par la guerre de 30 ans et les malheurs de la fin du règne de Louis XIV. Si des gens lèguent une pièce de terre ou de l'argent à une fabrique, en échange par exemple d'un service perpétuel, des messes, etc., il y a un gros risque, c'est que très rapidement cet argent soit mangé par les charges courantes de la paroisse et que le curé soit obligé de demander à l'évêque l'extinction des charges. Alors ce que les gens veulent, c'est des garanties. Ils font une messe, un ensemble de cérémonies, ils veulent que ce soit célébré à perpétuité. Et ils vont trouver ces garanties dans les confrères. Parce qu'il existe un mouvement continu de création d'associations. Au début du XVIIe, le Rosaire, au milieu du XVIIe, le Saint-Sacrement, à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, le Sacré-Cœur. Donc on a un renouvellement perpétuel des associations religieuses. Un renouvellement apparent. Parce que quand on regarde les registres, on s'aperçoit que c'est la même association qui se perpétue siècle après siècle et qui change simplement de nom. Mais à chaque refondation, il y a un nouvel apport de fonds. On trouve un généreux donateur qui va donner quelques pièces de terre ou un peu d'argent. Donc il y a sans cesse de l'argent frais qui entre dans la confrérie. La fortune des confréries est plus solide que celle des fabriques. Et quant à elles, elles s'entraînent dans un phénomène de boule de neige qui voit croître leur patrimoine. Plus elles ont d'argent, plus elles peuvent apporter des garanties, plus elles reçoivent des donations. Dans certains cas, notamment dans des petites villes, plusieurs associations, notamment des confréries de métiers, avec leurs chapelains, vont se mutualiser pour mettre en commun leur patrimoine et se garantir mutuellement. Donc vous fondez une messe à l'hôtel Saint-Éloi, si le chapelain ne peut pas célébrer la messe, ou même si cette chapelle disparaît, ça sera le chapelain d'une autre chapelle dans l'église, d'un autre hôtel, qui célébrera à perpétuité les messes. Ces donations peuvent d'ailleurs constituer une forme de diversification économique pour des individus, des familles, voire des clans entiers. Plusieurs exemples. À la fin du Moyen-Âge, de riches familles bourgeoises, certaines en voie d'anoblissement qui étaient proches du pouvoir ducal, ont créé des chapelleries et des confréries dans un but d'évasion fiscale, ou pour éviter la confiscation de leurs biens par le duc au moment où ils sont fâchés avec lui. Mais la famille a continué de contrôler cette chapelle, les terres qui avaient été transmises, et l'argent qui avait été transféré. Dans certains cas, on donne un terrain ou une somme d'argent et aussitôt on signe un contrat pour le louer ou l'emprunter. Donc on reste le maître. À la Renaissance, la confrérie Saint-Nicolas de Gondrecourt, pour simplifier le propos, j'ai pris souvent les mêmes exemples sur les mêmes confréries, notamment cette confrérie dans le pays de Fermont-Brodel, la confrérie de Gondrecourt. C'est un petit cénacle fermé d'une quinzaine de membres qui se cooptent les uns les autres. Donc de temps en temps, on fait entrer un nouveau membre. Le fait d'adhérer à l'association donne le droit de louer les prêts de la confrérie et éventuellement d'emprunter de l'argent à la confrérie. Les membres se cautionnant mutuellement, d'ailleurs. Enfin, au tournant du XVIIe et XVIIIe siècle, les mêmes phénomènes se développent, mais dans des confréries beaucoup plus petites, beaucoup plus populaires, dans de simples villages. Dans de nombreux cas villageois, des familles prennent le contrôle, tant politiquement qu'économiquement, et la confrérie, fondée ou contrôlée par eux, les a beaucoup aidés dans cette prise de contrôle du village. Et en règle générale, la famille et ses alliés récupèrent la moitié des ressources de la confrérie, l'allocation des prêts et également les emprunts, les constituants. Là, je donne un exemple, celui d'une confrérie de charité qui fait tout sauf de la charité. Sur un peu plus d'une centaine d'années, nous avons une centaine de constitutions de rente à peu près qui ont été signées. La famille fondatrice et ses descendants, on a récupéré 21%. Les officiers de la charité, qui sont souvent soit des membres de la famille ou des alliés, des amis, on récupère 30%. Lorsque l'on prend en analyse l'ensemble de ces constitutions, on se rend compte que les constitutions de rente ont été prises par des membres de l'association ou des gens très liés à des membres de l'association. Surtout alors que les fabriques sont dans l'environnement immédiat de l'église, sous le contrôle du curé, les confréries bénéficient d'une relative indépendance. C'est d'ailleurs pour ça que les missionnaires et les envoyés de l'évêque pestent. Et l'initiative des laïcs qui prédomine. C'est une structure relativement plastique qui peut faire à peu près ce qu'on veut. Quels que soient les statuts et les buts religieux, c'est pour ça que je suis assez précautionneux quant à me baser sur les statuts des confréries pour expliquer comment elles fonctionnaient. Le fonctionnement est à peu près toujours le même. Et malgré ce qui a été dit plus haut sur la domination de certaines familles, le fonctionnement est relativement démocratique. C'est-à-dire, un certain nombre de personnes du village, ils sont associés, la plupart des familles sont associées, il y a des assemblées générales, on vote de manière démocratique, notamment pour l'élection des officiers. Et surtout, chaque année, le trésorier doit montrer ses comptes à l'ensemble des membres de l'association, et parfois même à l'ensemble de la communauté villageoise. Ces confréries ont en outre permis d'accumuler un patrimoine qui permet au groupe d'agir en commun, ça va lui donner les moyens d'agir. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais je suis sûr, et la dynamique des groupes tend à me le confirmer, que c'est en partie ce qui explique l'influence religieuse des confréries. Tant que les habitants ont été impliqués dans le fonctionnement des associations religieuses, tant qu'ils les ont conçus comme étant une émanation de leur propre communauté, eh bien, ils ont pu se laisser influencer par l'association sur le plan religieux. À partir du moment du XVIIIe siècle, puis à la Révolution, où il y a une coupure, où la confrérie n'a plus aucun bien, où c'est une structure purement religieuse, dirigée par le curé, où les laïcs n'ont plus aucune influence, là il y a coupure. Et d'ailleurs, la déchristianisation commence au même moment. C'est un élément qui a pu jouer. Alors la fortune est le mode de gestion des confréries. Un peu à la fin du Moyen-Âge, un peu avant la guerre de 30 ans, mais dans les deux cas, les troubles, les guerres, les famines, les pestes ont stoppé cette évolution. Les confréries sont entrées dans une nouvelle phase. Les bénéfices tirés de la terre ont commencé à être placés de manière financière sous forme de constitution de rente. Donc le phénomène a été cassé, mais après la reconstruction qui se termine vers 1720 en Lorraine, le phénomène se renouvelle une troisième fois, mais avec une ampleur toute nouvelle. Ce qui va d'ailleurs démultiplier leurs sources de revenus. J'ai intitulé ça cette étape des prêts aux prêts. Aux époques de crise, lors de la guerre de 30 ans notamment, les confréries ont beaucoup contribué à soutenir les habitants puis à reconstruire, en apportant des secours aux habitants pendant les malheurs, et puis en permettant de reconstruire ce qui avait été détruit. Beaucoup d'équipements collectifs, des ponts, des moulins, ont été reconstruits grâce à l'argent des confrères. À la fin du XVIIe, mais surtout après la reconstruction, puis également sans doute après la déroute de l'As, qui a assaini, on le voit en Lorraine, le marché financier, les choses repartent de là. C'est le début d'une formidable augmentation du patrimoine, les revenus des prêts, mais aussi les confiscations des biens des débiteurs défaillants. Vous empruntez de l'argent, vous pouvez vous rembourser, la confrérie, la charité chrétienne n'y est pour rien, confisque les biens qui vont accroître son patrimoine, dégager de nouveaux revenus qui, à leur tour, pourront être prêtés. Donc le capital financier, peu à peu accumulé, dépasse souvent en valeur le capital foncier. Là, j'ai toujours la confrérie Saint-Nicolas de Gondecourt. J'ai fait plusieurs coupes dans ses comptes pour voir l'évolution de ses revenus. En bleu, vous avez le reliquat, c'est-à-dire l'excédent de fonctionnement. En violet, le revenu des prêts. Alors, le revenu des prêts ne diminue pas en valeur, il diminue en proportion. Et la part qui augmente, c'est les rentes, donc les revenus des conseillers de rente qui ont été placés par l'association. Les procès attentés par les confrères à leurs débits rentiers pour défaut de paiement, on voit que ça augmente de manière continue. Donc c'est tous les procès que j'ai pu trouver pour toutes les confréries meusiennes sur la période chronologique 1600-1790, où la confrérie fait un procès. Parfois, quand il s'agit de petites sommes et que la garantie c'est une petite pièce de terre, il n'y a même pas de procès. La pièce est transférée immédiatement, là c'est pour des propriétés un peu plus importantes. Donc on voit qu'il y a un développement continu de ces procès. D'ailleurs, la gestion des confraries va de plus en plus, dans les techniques, se concentrer sur la partie financière et délaisser de plus en plus la partie foncière. On va de plus s'intéresser aux constituants. D'ailleurs, lorsqu'on va vouloir fonder une nouvelle association, on ne va même plus demander à quelqu'un de léguer des terres. On va faire un tour de table avec des jeunes donateurs qui vont chercher à rapporter une somme d'argent. J'ai parlé tout à l'heure, j'en parle, j'avais mis une petite note, les cas des confréries de charité. On a en Lorraine une bizarreté, c'est que les confréries de charité se développent à contre-temps après les malheurs. Bon, il y avait quelques confréries qui sont fondées à Saint-Vincent-de-Paul, et elles apportent des secours pendant la guerre de 30 ans, mais la plupart des charités sont fondées à la fin du XVIIe siècle, au moment où les choses commencent à s'améliorer, on est encore le grand hiver 1696, mais elles se développent après, pendant la reconstruction, et d'ailleurs le rôle n'est plus du tout caritatif. Au départ, bon, elle donne encore quelques secours, puis après des prêts à la consommation pour aider à la soudure, mais en réalité, elle devient de plus en plus des institutions bancaires. Donc, j'exagère peut-être un peu l'appellation. En milieu rural, leur fonction, c'est de prêter de l'argent. Un autre document donc, pour la Convention Saint-Nicolas des Clercs, c'est une association qui a été créée en mutualisant toutes les chapelles de l'église Saint-Étienne de Saint-Mihiel. On voit là bien les trois étapes dont j'ai parlé, où la confrérie a commencé à prêter de l'argent. Alors, toutes les constitutions manquent ont été retrouvées. Il y en reste à peu près une centaine, mais sans doute beaucoup plus. Mais on voit bien les trois étapes. La fin du Moyen-Âge, le tournant de la Renaissance, ce qu'on appelle le petit âge d'or lorrain, avant la guerre de 30 ans, et puis la reconstruction progressive à la fin du XVIIe. Lorsqu'on étudie les registres de comptes, on se rend compte qu'il y a eu une politique visant à maximiser les excédents. Les confréries sont très bien gérées. Les comptes deviennent notamment d'une excellente qualité. C'est très bien d'ailleurs pour l'historien qui les dépouille, c'est facile à dépouiller à partir du XVIIIe siècle, ce qui n'est pas le cas au XVIe. Et ils sont présentés chaque année par le trésorier devant les membres rassemblés, ce qui pousse sinon à l'honnêteté, au moins à des efforts comptables. D'ailleurs, les évêques de Verdun et de Reims ont diffusé des petites notices dans les paroisses expliquant comment il fallait tenir un compte. Ce qui a contribué à une meilleure mise en forme. Au 18e, mais surtout après 1730, qui est vraiment, dans tous les domaines, une année tournante. Début d'un décrochement religieux pour les jeunes filles, c'est bon, on commence à voir monter les naissances illégitimes, là il y a quelque chose qui se passe vers 1730 en Lorraine. On remarque une politique visant à rationaliser les dépenses, voire à les contraindre. Même les dépenses religieuses sont minimisées. Les dépenses religieuses, c'est le paiement de cérémonies, l'achat de cire pour les messes, le paiement de prédicateurs au moment du carême. On essaye de minimiser ce genre de dépenses. Ce qui, au passage, montre que, sans doute, la contre-réforme est en train de s'essouffler à ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire que les confréries ne vont pas rester actives et qu'elles ne vont pas avoir un impact religieux après. Cette gestion vise à dégager un excédent, c'est le terme qui est utilisé dans les comptes, maximum. Un bénéfice qui pourra à son tour être placé le jour même de du service annuel de la confrérie, de l'assemblée générale de la confrérie. Le trésorier rend ses comptes, il présente l'excédent qu'il a obtenu, et aussitôt le jour même, on va placer cet argent sous forme de constitution rente. Et d'ailleurs, beaucoup de gens sont venus écouter la rendition, c'est le terme qui est utilisé des comptes, parce qu'ils savent que de l'argent va être disponible et qu'ils pourront l'emprunter. Or, l'examen des autres pièces d'archives montre que la confrérie est toujours aussi active. Elle n'est pas du tout en déclin, le nombre d'adhérents est stable. La baisse des dépenses pourrait signifier une diminution de l'activité de l'association, il n'en est rien. C'est vraiment une politique, on cherche à minimiser les dépenses. Alors, bon, quelques documents. Dans certains cas encore, comme l'a toujours raconté Saint-Nicolas de Gondrecourt, bon, je l'ai choisi parce qu'on a des archives sur 400 ans. Et je les ai pesées, il y a 12 kilos d'archives. Les archives, ils n'aiment pas que je parle comme ça, mais... Et donc on peut suivre sur une très très grande durée. Dans certains cas, comme la confrérie Saint-Nicolas de Gondrecourt par exemple, les dépenses sont fixées définitivement et on n'en change plus, alors même que les recettes explosent. Donc vous voyez les recettes qui augmentent d'année en année, pour atteindre à peu près 2000 livres en 1786. On place systématiquement cet argent, donc en blanc vous avez ce capital qui a été prêté, qui augmente et qui atteint 14 000 livres peu de temps avant la Révolution. Et ce que j'appelle le taux de couverture, c'est le capital qui est placé correspond, vous voyez là, à 7 fois une année de fonctionnement normal de l'association. Ce qui est très important. Donc le capital passif sous forme de rente, on vient même atteindre 7 années de fonctionnement ordinaire de la succession, soit un taux de couverture de 700%. La part des rentes augmente donc dans les recettes des confréries, devenant même majoritaire, et le phénomène est cumulatif, puisque le bénéfice des rentes, lorsque les rentes sont remboursées ou lorsqu'on touche l'intérêt, on le replace immédiatement. Alors, quelle était la fortune ? J'ai encore quelques documents. Donc là, on voit l'excédent de fonctionnement qui augmente année après année, depuis les années 1730 jusqu'à la Révolution. Et là, le taux de couverture, donc c'est simplement l'excédent par rapport aux dépenses. Donc en moyenne, on a 150% en recettes sur les dépenses. J'ai essayé de calculer la variation des dépenses de la Provence syndicale d'une année sur l'autre. Alors, c'était un peu compliqué. Et on voit que d'année en année, alors que la confrérie est toujours aussi active, les dépenses varient de moins en moins d'une année sur l'autre, pour être quasiment stable dans les années qui précèdent immédiatement la Révolution. Donc, toujours la même association. J'ai scindé donc les recettes en bleu, les dépenses totales en rose et les dépenses religieuses en jaune. Et on voit que les dépenses religieuses baissent, qu'elles stagnent, alors même que les dépenses augmentent. Alors, les dépenses, elles sont deux ordres. C'est soit l'argent qui va être placé donc sur le marché, ou également des interventions au profit de la communauté d'habitants. Il y a des travaux à faire à l'église, la communauté habitante n'a pas les moyens de les faire, la confrérie va payer. L'école du village, la confrérie va payer. Dans le dossier d'accompagnement, j'ai placé plusieurs tableaux qui visaient à évaluer la fortune des confréries à la Révolution. D'abord dans le seul district de Bar-le-Duc, devenu Bar-sur-Ornain à la Révolution, puis dans l'ensemble du département. J'ai extrapolé les données extraites des districts dont les sources ont été conservées afin d'obtenir un chiffre d'ensemble couvrant l'ensemble du département. Et je suis arrivé à un patrimoine d'à peu près 1,5 million de livres, sachant que beaucoup de confréries qui étaient établies dans les monastères n'ont pas été pris en compte dans cette statistique. Donc ça représente quand même une somme très importante, même si mon chiffre n'est qu'une évaluation qui vaut ce qu'elle vaut. Mais on comprend d'abord l'attachement des habitants et en quoi cet argent pourrait être très intéressant pour financer la vie économique. Voilà. Je reviens quand même au propos qui suit d'aujourd'hui, donc la contribution au crédit rural. Alors, en tout cas, l'existence et la disponibilité d'une telle quantité d'argent expliquent que les particuliers venaient spontanément solliciter un prêt. Au tout début du XVIe siècle, les actes du chapitre cathédral de Verdun mentionnent le cas d'une femme du Normeusien qui s'est déplacée jusqu'à Verdun, qui a marché une journée, pour venir rencontrer le trésorier des chanoines et lui demander un prêt afin de payer une part de maison. C'est donc la preuve que le chapitre prêtait effectivement de l'argent, elle ne serait pas venue si ce n'était pas le cas. Mais le trésorier lui dit qu'il n'a pas d'argent et il l'oriente vers une autre organisation, la confrérie des cryptes. En fait, c'est une association qui regroupe toutes les chapelles et tous les chapelains, toutes les confréries de la cathédrale. Donc une quarantaine d'organisations et une soixantaine de prêtres. Ce qui leur a permis de mutualiser un patrimoine très très important. J'ai découvert après, en faisant un sondage dans le contrôle des actes, que la confrérie des cryptes était en fait le plus gros prêteur d'argent du secteur de Verdun, peut-être 15% du marché local. En mettant en commun les biens de leur chapelle, elles sont une quarantaine, et ont construit un aimant, ça je l'ai dit. Alors, malheureusement, la cathédrale de Verdun a brûlé en 1760, et je n'ai pas le décompte complet de toutes les considérantes qu'elle pouvait posséder. Mais j'ai une organisation semblable, celle de Saint-Miel dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était plus petite, mais qui, en 1687, possédait 100 contrats de rente. On peut évaluer, peut-être, la confrérie des cryptes à un patrimoine de 200 à 300 constituants en rente, sachant que dans le secteur, elles étaient en moyenne de 300 livres, ça ferait un patrimoine de 90 000 à 100 000 livres, qui était placé par cette congrégation des cryptes. Donc le public savait bien où aller trouver de l'argent frais. Être membre d'une association, assister à la rendition des comptes permettait d'obtenir l'information que de l'argent allait être disponible. Avec l'augmentation des bénéfices des confréries, les sommes à placer sont devenues de plus en plus volumineuses, parfois plusieurs milliers de livres. Donc, une personne ne pouvait pas emprunter, mais on voit un phénomène, c'est-à-dire plusieurs personnes s'associent pour emprunter en bloc la somme qui va être placée. Avec le temps, les sommes augmentant, il fallait aller un peu plus loin que le village lui-même ou la ville.